Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, vous connaissez sans doute ce petit berger de montagne qui s'en allait garder ses troupeaux, mais bien élevé, il passe d'abord à l'église pour recevoir la bénédiction de son curé. Le prêtre lui demande s'il connaît bien ses prières, et voyant qu'il ne les connaissait pas très bien, il lui fait réviser le Notre Père. Et le renvoie en disant, « Mon garçon, tous les matins, dis bien ta prière à Notre Père. » Après quelques semaines, le petit garçon étant revenu, il croise son curé qui lui dit « Et alors, le Notre Père ?» Et il baisse la tête. « Mais vous n'avez pas fait votre prière. » « Si, monsieur l'abbé. » Tous les matins, je commençais « Notre Père » mais je ne pouvais pas aller plus loin parce que c'était si beau. Chers fidèles, cette petite histoire nous rappelle la richesse extraordinaire des prières de la religion catholique. La richesse de chaque passage de la Sainte Écriture qui doit être notre vie. Notre Seigneur l'a dit d'ailleurs lors de la tentation au désert, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, à la messe, à l'évangile, nous avons eu ces quelques paroles. Secute sunt eum turbe multae. Des foules nombreuses le suivirent. Si vous voulez bien, arrêtons-nous quelques instants juste sur ces paroles qui sont en quelque sorte le résumé de toute notre vie. Des foules nombreuses. L'Évangile nous en parle très souvent. Dès le début de sa vie publique, notre Seigneur, voyant les foules, monta sur la montagne. Et à la fin de ce premier discours, l'évangéliste précise que les foules furent dans l'admiration. Saint Marc, lui, va préciser que les foules étaient si nombreuses qu'elles étouffaient notre Seigneur, se serrant tout près de lui pour pouvoir chacun le toucher. Saint Luc, quant à lui, lors de la guérison du paralytique, précise que les hommes ont dû monter sur la maison et descendre le paralytique par le toit parce qu'il y avait une telle foule. À deux reprises, nous avons les chiffres. À la première multiplication des pains, c'est 5 000 hommes. À la deuxième multiplication, 4 000 hommes, auxquels chaque fois il faut ajouter toutes les femmes et tous les enfants. Et ces foules vont suivre notre Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. Encore le dimanche des rameaux, nous retrouvons ces foules qui proclament la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tout ce monde? Pour des raisons différentes. Les uns sont là par amour. Une grande charité les pousse à la suite de notre Seigneur. Pour d'autres, c'est la doctrine, ces prédications qui étaient tellement différentes de ce que disaient les scribes et les pharisiens. Et encore d'autres sont là plutôt à cause des bienfaits, des miracles, des guérisons. Mais nous pouvons nous demander si ces foules, que nous trouvons d'ailleurs tout au cours de l'histoire de l'Église, ont toujours été si nombreuses. En effet, ce n'est pas le cas. Déjà, quand notre Seigneur prêche en disant que sa chair est une nourriture, que son sang est un breuvage, et que pour avoir la vie, il faut manger sa chair et boire son sang, beaucoup s'en vont. Comme l'évangéliste dit, ils ont trouvé ces paroles trop dures. Mais plus tard, ce ne sera pas beaucoup, ce sera tout le monde qui abandonne notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lors de l'agonie. Bien, demandons quant à nous de ne jamais abandonner notre Seigneur, même quand l'heure de l'agonie viendra. Mais passons à la deuxième partie de ces quelques paroles. Des foules nombreuses, le. Qui est-ce le? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qui est-ce? Il est Dieu. Dieu fait homme. D'où cette puissance extraordinaire, cette autorité avec laquelle il parle, cette attirance exercée sur ses foules. Et pourtant, cet homme qui est Dieu est aussi un signe de contradiction. Dès sa naissance, celui qui est né pour nous apporter la vie est l'occasion du massacre des innocents. Pendant sa vie publique, parmi ceux qui s'approchent de lui pour trouver un peu de joie, certains vont s'éloigner tout tristes, comme le jeune homme riche qui ne voulait pas quitter ses richesses. Et même Judas, un des 12 amis intimes, va terminer par se pendre. Quel mystère que tous ne suivent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour nous, chers fidèles, qui est-ce? C'est tout d'abord un ami. Un ami fidèle, fidèle parce qu'il nous donne la fidélité, il nous rend fidèles. Juste avant sa passion, il dit « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Et c'est cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour chacun d'entre nous qui nous donne la fidélité à son service. Et c'est à cause de cet amour de notre Seigneur qu'il y aura toujours, jusqu'à la fin des temps, quelques-uns qui resteront fidèles jusqu'au bout. Mais ces foules nombreuses le suivirent. Bien, où est-ce que ces foules suivaient notre Seigneur? La réponse est toute simple. Ils le suivaient là où notre Seigneur les conduisait. C'était des gens simples, tellement épris de l'amour de cette personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ne se posaient pas trop de questions combien de temps ça allait durer, ni où notre Seigneur allait les conduire. Ils le suivaient simplement. Et quant à nous, où est-ce que notre Seigneur veut nous conduire? À la perfection. À la perfection de la charité. Et d'ailleurs, notre Seigneur nous en parle dès son premier discours. Écoutons-le. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton proche et tu haïras ton ennemi. » Et moi, je vous dis, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez enfants de votre Père qui est dans les cieux. » Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et descendre la pluie sur les justes et sur les injustes. Si en effet vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et ce programme, chers fidèles, n'est pas uniquement pour quelques-uns. Notre Seigneur s'adresse à nous tous. Certes, c'est parfois un chemin difficile. Ardu. Et alors, on peut se demander si notre Seigneur, qui est tellement bon, n'aurait pas eu l'idée de donner un autre chemin, une sorte de raccourci qui permet d'atteindre la perfection facilement. Vous vous doutez de la réponse. Notre Seigneur étant si bon, à trouver ce chemin. Un chemin plus facile, plus sûr, plus rapide, pour conduire à la perfection de la charité. Mais ce chemin est un chemin caché. Comme le dit Saint Laurent Justinien, ce chemin est caché parce que si le bonheur de ce chemin était connu de tous, tout le monde s'empresserait vers lui, laissant de côté le monde. En effet, ce chemin est le chemin de la vocation religieuse, un chemin que notre Seigneur daigne montrer à ceux qu'il aime davantage, comme nous le dit saint Marc. Jésus regarda le jeune homme et l'aima. Puis il lui dit, « Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. » Alors, si pour emprunter ce chemin que notre Seigneur propose à certains, il faut tout quitter, est-ce vraiment un chemin plus facile, sûr et rapide? Bien sûr que oui. Et à trois points de vue. Ce chemin est une école de perfection où on apprend facilement, sûrement et rapidement à aimer Dieu, parce que cette école va enlever, grâce aux trois vœux de religion, les obstacles à la perfection. Le vœu de pauvreté coupe le filet des biens terrestres. Le vœu de chasteté coupe le filet des plaisirs de ce monde. Et le vœu d'obéissance coupe le filet de notre volonté propre. Ce chemin est aussi un paradis. Un paradis sur terre, où on contemple facilement, sûrement et rapidement Dieu et ses perfections, parce que les trois vœux nous mettent encore dans un état tellement paisible, sans souci, où nous pouvons nous donner entièrement à cette contemplation. Le vœu de pauvreté ôte l'inquiétude des affaires du monde, la chasteté ôte l'inquiétude d'une famille, et l'obéissance ôte l'inquiétude de soi-même, c'est tellement extraordinaire, on n'a plus aucun souci et on peut penser uniquement à Dieu. Et ce chemin est aussi un sacrifice. Un sacrifice où on offre facilement, sûrement et rapidement absolument tout à Dieu. La pauvreté sacrifie les biens extérieurs, la chasteté les biens de notre corps, et l'obéissance sacrifie les biens de l'âme. Nous voyons alors qu'il y a deux voies. Chacune conduit à notre Seigneur Jésus-Christ, à la charité. Et pourtant, pour chacun d'entre nous, il n'y a qu'une voie. Une voie que notre Seigneur a choisie depuis toute l'éternité. Et tout le but de notre vie est justement de correspondre à ce choix de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment? C'est le père de Foucault qui nous donne la réponse. Il faut trois choses, dit-il. D'abord, supplier notre Seigneur de nous appeler à lui bien distinctement. Puis, après avoir entendu distinctement les viens sans lesquels nous n'avons pas le droit de nous jeter à l'eau, se jeter à l'eau sans hésiter, comme l'a fait Saint-Pierre. Enfin, il faut, confiant dans les viens sortis de la bouche de Dieu, marcher jusqu'à la fin sur les flots, sans l'ombre d'une inquiétude. Tout nous sera facile dans la voie où Jésus nous appelle. Tournons-nous alors vers la très sainte Vierge Marie, elle qui suivait son Fils dans ses prédications, qui voyait ses foules qui étaient à sa suite. Prions-la de nous donner la grâce de faire toujours partie de ces foules qui aiment notre Seigneur, qui partent à sa suite, qu'elle nous aide à mieux connaître ce Dieu fait homme par la lecture, par l'oraison. Et ensuite, que la Sainte Vierge qui entourait d'un amour de prédilection les apôtres, les amis intimes de notre Seigneur, qu'elle aide de ses bons conseils ceux d'entre nous qui entendent cet appel du bon Dieu pour se donner tout entier à lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.